Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant Jésus-Christ en nous, en vous, par le Saint-Esprit. Et nous arrivons à l'étude numéro 17. Avant de continuer, comme on vient de me reposer la question si je faisais partie des témoins de Jéhovah, etc., etc., je dois répondre que je ne fais ni partie des témoins de Jéhovah, ni d'aucune secte qui existe, ou qu'on pourrait inventer. Je dirais simplement que, vu mon très grand âge, 90 ans, donc 90 ans, eh bien, je pense que je n'ai plus besoin, à la porte de la mort, de tellement me justifier. Mon désir, sachez-le, a toujours été d'être 100% anonyme. Mais ça ne veut pas dire que je ne fais pas partie du corps de Christ tel qu'il est expliqué dans les Actes des Apôtres. Je dirais simplement, avec toute la conscience que j'ai, que toutes ces études sont 100% bibliques, donc absolument pas sectaires, mais interconfessionnelles. Aussi bien pour ceux de confession catholique que pour les protestants, ils peuvent tous les écouter sans avoir le sentiment d'écouter quelque chose ou d'une philosophie personnelle. Surtout pas. Alors soyez s'il vous plaît rassurés. Nous poursuivons donc notre étude de hier, du CD numéro 16. Nul n'a autant ressenti la souffrance des êtres humains que Jésus. C'est lui et nul autre qui a discerné et révélé la racine de la souffrance. Il connaissait mieux que quiconque les besoins des hommes. Il savait que leur misère est profondément enracinée dans leur cœur partagé, dans le tréfonds divisé de l'être humain. Il a mis en lumière ce que est le cœur de l'homme. Il a dévoilé ce qui l'empoisonne, c'est-à-dire cette coupure, cette distance qui nous sépare des autres. L'empoisonnement du sang de l'humanité est si profond, si généralisé, qu'il est devenu impossible de mesurer la gravité d'une faute personnelle en fonction de l'intensité d'une souffrance. En entendant la terrible nouvelle selon laquelle Ponce Pilate avait mêlé le sang d'êtres humains à celui d'animaux destinés au sacrifice, Jésus déclara : Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? Ou pensez-vous que ces 18 personnes sur lesquelles est tombée la tour et qu'elle a tuée étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, 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 je vous le dis. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Saint Luc, chapitre 13, versets 2 à 5. Prendre conscience de notre propre culpabilité est un pas décisif pour retrouver la vie. Toute notre vie, le tout de notre vie, avec tout ce qui lui est lié, est pourri, on peut bien le dire, est ruiné, mortellement empoisonné, au point qu'un criminel ne serait pas plus coupable que nous. Nous tous, nous sommes définitivement condamnés. L'innocent assassiné est aussi coupable que le meurtrier. Voilà la prise de conscience décisive. Cette vie que nous vivons aujourd'hui, toute notre vie, il nous faut confesser qu'elle est mauvaise. Elle pourrit et détruit absolument tout. Nous devons reconnaître en elle un mal personnel, mais aussi un mal général. Notre faute contribue à la misère mortelle du monde entier. Confesser cette faute générale et personnelle est le plus ultime et décisif qu'il nous reste à faire en tant qu'être humain. Donc, la détresse qui naît de la prise de conscience de cette culpabilité est une souffrance ultime et décisive. Nous connaissons le tourment indicible et cruel de Martin Luther dans sa tour noire. Celui qui ne sait rien de la misère de Luther dans sa solitude, dans son désespoir, ne peut pas comprendre la foi de Martin Luther. Ce n'est qu'en partant de sa souffrance, quand il se sentait confronté à un Dieu lointain et en colère, que l'on peut comprendre l'assurance et la joie de sa foi, qui était devenue chez Luther une nouveauté absolue. Du reste, il y a des livres qui le confirment, Martin Luther, Die Werke Edition de Weimar, traduction de Marc Lienhardt, Un temps, une vie, un message, Paris-Genève, 1983. Donc, une étude de Martin Luther. Du reste, voici ce qu'il dit. Il dit, je connais un homme qui affirmait avoir passé bien souvent par ses transes pendant un temps très court. Il est vrai, mais elles étaient si intenses et si infernales qu'aucune langue ni aucune plume ne saurait les décrire, et celui qui n'en a pas fait l'expérience ne saurait le croire. C'est au point que, s'il fallait les supporter jusqu'au bout, ou si elles duraient une demi-heure, ou même seulement la dixième partie d'une heure, on en périrait tout entier et tous les os seraient réduits en cendres. Alors Dieu apparaît horriblement irrité, et avec lui de même toutes les créatures. Impossible donc de fuir, pas moyen de trouver une consolation ni en soi-même, ni au dehors. De tous côtés, ce n'est qu'une accusation. Oui, Luther en est arrivé d'abord à haïr en quelque sorte Dieu. Juste, il le voyait. Il voyait un Dieu juste qui était en face de lui, qui était empli de colère et de châtiment. Il faisait en vain d'immenses efforts pour l'apaiser et pour retrouver sa communion. Oui, nombreux sont ceux qui font une expérience semblable, confrontés à la misère actuelle. Mais dans un autre ou dans une autre mesure, leur sentiment de culpabilité est plus superficiel. Ils ressentent comme injuste, tel que le châtiment que Dieu fait peser aujourd'hui sur l'humanité. Mais si nous sommes bien loin de la détresse de Luther, même si nous ne parvenons pas à ressentir ces tourments en raison de nos fautes, nous péchons nous aussi contre une volonté de communion. Nous nous trouvons dans la même solitude que lui. Nous ne parviendrons pas à vaincre la misère du monde parce que nous n'allons pas au bout de la recherche de la cause derrière, de cette cause qui est vraiment derrière la souffrance. Voyez-vous le fardeau qui pèse sur notre conscience en raison de notre isolement, et pas seulement de notre isolement, aussi de notre individualisme. Donc, la seule chose dont nous aurions besoin, c'est l'authenticité. L'authenticité d'un solide réalisme qui est capable de reconnaître dans la plus petite portion d'existence l'immense responsabilité de la culpabilité de nous tous. Il nous suffirait de porter notre regard sur le plus petit d'entre nous pour ressentir la misère et le mal qui nous menacent comme une épée au-dessus de notre tête et qui trouvent leur origine dans l'individualisme généralisé. L'enfant est perdu au sein de l'humanité. Le jardin de l'enfance devient un désert triste et désolé. Voilà la plus convaincante des preuves de l'étendue de la destruction de l'humanité par notre faute. Le paradis d'une communion en Dieu est perdu pour la terre, parce que pour nous, le lien vital de la communion avec Dieu s'est tout simplement rompu. Il suffirait donc d'accueillir un seul de ces enfants issus de la détresse tant matériel que spirituel, pour reconnaître le lien naturel qui unit la misère du monde et la faute individuelle, car la destruction, la déchéance du monde de l'enfance, elles viennent de notre péché, elles viennent du fait que notre intérêt se détourne égoïstement du reste du monde et se concentre uniquement sur nous-mêmes. Combien d'enfants d'ouvriers grandissent pratiquement sans leur mère, car la mère est tellement accaparée par le travail en usine, les tâches ménagères et l'éducation des enfants, que l'enfant ne peut pas trouver son épanouissement au sein d'une vie saine et communautaire. Ces petits naissent donc de parents souvent malades, et épuisé par une exploitation impitoyable. La vie, on peut dire en gestion, est déjà marquée par la tragédie. L'enfant souffre de la faim dès le sein de sa mère au travail, malade à force d'endurer la cruauté d'une humanité qui n'épargne pas la mère enceinte ou qui devrait allaiter l'enfant, surtout un bébé. Ce péché de l'humanité qui frappe les premiers surgissent de la vie, elle est cette vie imprimée sur l'enfant elle imprime sur l'enfant le cachet de la dégénérescence, malheureusement. Alors il apparaît désespéré d'amener un tel enfant malade dès sa naissance, plus ou moins malade, pour l'amener à une vie normale en communauté. Voyez-vous, la paralysie de l'élan vital a sa racine, eh bien, cela ne provient pas que du surmenage de la femme. Je répète, la paralysie de l'élan vital a sa racine, ne provient pas simplement du surmenage de la femme qui devient mère en travaillant. Cette ombre funeste sur la vie à naître ne vient pas seulement d'une dégradation de la santé qui serait causée par les produits toxiques et chimiques des usines qui détruisent en carrément l'intérieur du corps maternel et qui ont pour conséquence maintes fausses couches et une forte mortalité infantile. Ceci est le fait dans certains pays, je ne dis pas partout, évidemment, heureusement. Des millions d'enfants illégitimes naissent parmi nous chaque année, qui payent le prix de la conduite irresponsable et intolérable de pères qui, quant à eux, continue à vivre confortablement, voire même certains très confortablement. Fréquemment, on s'en doute, des mères se font avorter de leur enfant et gardent un meurtre sur leur conscience. Si tel n'est pas le cas, dans leur malheur, elles n'ont pas la possibilité d'offrir à leur enfant la chaleur d'un véritable amour maternel. Quand nous découvrons le drame de ces enfants non désirés, ce qu'ils vivent et ressentent, nos yeux s'ouvrent. Le plus impitoyable d'entre nous est confronté à la réalité et nous pouvons nous accuser en nous adressant les plus durs reproches, c'est-à-dire comment dans notre égoïsme individualiste avons-nous pu passer à côté de ces monstruosités? À proximité de chez nous, le cinquième enfant naît pour mourir. Abandonné par les foules de nos grandes villes, il subit un lent empoisonnement. L'alimentation qu'il reçoit dans son biberon contribue souvent à l'affaiblir. On pourrait résoudre ces problèmes aujourd'hui, ou au moins les réduire, si les hommes se ressaisissaient, ne serait-ce qu'un peu, pour retrouver un esprit communautaire. Voyez-vous, quand on examine les statistiques de la criminalité et des familles alcooliques, il apparaît clairement que la double déchéance de l'immoralité et de la maladie qui se transmet dans les familles accroît encore terriblement la misère du monde. Et là, je ne parle même pas des drogués. Quand bien même le tout petit passerait ses premiers récifs mortels, la plupart des enfants pauvres souffrent d'une pénurie de logements au milieu d'un océan d'habitations. Ils sont errants dans leur propre pays. Ces malheureux manquent de l'air sain qui serait nécessaire à leurs poumons dans leur sous-sol, souvent des mansardes, des baraques ou des arrière-cours. Chers amis, il faut nous accuser. Nous avons été confrontés à cette misère du monde tout proche, sans éprouver de compassion ou de sympathie. Pas une seule fois, nous ne leur avons rendu visite. Nous savons pourtant, oui, nous savons prendre du temps pour nous reposer. Chaque jour, après notre travail, qui peut effectivement avoir été difficile, nous nous accordons un moment de détente pour nous faire du bien. Nous sommes individualistes et malheureusement égoïstes. Nous ne prenons pas le temps de nous rendre près de chez nous, là où chaque jour il nous serait possible d'entrer en contact avec la misère du monde. Alors nous préférons de loin notre TV et Internet, les tablettes et tout le reste de ces gadgets d'aujourd'hui. Voyez-vous, imaginons une seule de ces chambres. Elle n'est jamais grande. Il s'agit d'une petite pièce dans laquelle souvent 4 à 5 personnes doivent survivre jour et nuit. Il n'y a pas de lit pour tous, non. Et précisément, le fait que dans ces pièces, à longueur de journée, plusieurs personnes partagent un même lit, cela est un signe des temps qui révèle notre responsabilité. Respirons un peu l'air de cette petite chambre rendue insalubre. Examinons les dangers moraux de cette promiscuité, l'inimaginable initiation précoce des enfants aux choses qui peuvent s'y passer. Sentons la crasse, la saleté inévitable dans la pauvreté de cette pièce. Sentons cela dans notre corps. Entassons-nous à 4 personnes épuisées dans cette chambre où les lits, les linges et les couvertures sont dans un état indescriptible. Et j'ai dit les lits quand il y en a des fois qu'un seul. Ensuite, représentons-nous 10 pièces comme celle-là par étage, puis 5 étages semblables l'un au-dessus de l'autre. Cette misérable salle de torture, on peut bien le dire, elle est multipliée par 50. Ensuite, représentons-nous 10 immeubles de ce genre, soit 500 fois cette chambre maudite. Et continuons. Imaginons 1000 villes, 500 000 personnes entassées dans ces antres de malheur. Les plus endurcis parviendront peut-être à se faire une idée de la misère qui sévit. Mais la plupart de ces malheureux luttent en vain pour trouver un logement décent, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Combien parmi eux ont des enfants qui devront grandir dans des conditions indignes, sans le soutien, oui, sans le soutien de leurs parents, sans la communauté d'une famille, oui, on peut dire surtout sans un foyer quelconque. Voyez-vous, nous connaissons l'histoire de Noël, celle de l'enfant dans l'étable qui ne trouvait pas de gîte parmi les humains. Nous aimons la mettre en image. Nous plaçons des crèches de Noël illuminées dans notre salle décorée pour la fête. Nous sommes édifiés en ressentant la pauvreté et la misère de l'enfant Jésus, né d'une mère sans abri dans une étable, loin des habitations humaines. Et néanmoins, nous tolérons que d'innombrables enfants restent sans logis, sans leur petit lit. Et cela dans notre patrie, dans notre pays natal. Pourquoi ne nous approchons-nous pas de ces enfants? Ils n'ont même pas une étable à leur disposition pour se protéger de la tempête et de la pluie. Aujourd'hui, pour beaucoup de ces personnes, chassées l'un d'un lieu à l'autre, ce ne serait pas le plus mauvais logis. Des mères désespérées, dans l'incapacité de trouver un logement pour leur enfant, pensent même au suicide. Au moins un enfant malheureux, devenu orphelin, a la perspective d'obtenir un lit dans un orphelinat. L'État se soucie donc des enfants dont on a diagnostiqué une maladie mentale, de ceux qui sont placés à l'assistance publique en raison du comportement de leurs parents. L'Office des mineurs, avec ses assistantes sociales, vient au secours de la jeunesse. Soyons donc reconnaissants pour ces efforts sociaux solidement institués dans le domaine public. Ils sont un signe d'une misère qui ne cesse d'augmenter, et c'est vrai, mais aussi d'une responsabilité qui s'éveille dans la société. Voyez-vous, l'État défend également le droit à la propriété et à la possession, et l'État s'engage à le défendre. Nous voyons donc nos impôts que nous payons minutieusement et nous acceptons l'aide sociale de l'État. Donc, nous ne lui manifestons ni opposition ni critique, pour autant qu'il ne mette pas en péril les deux orientations de notre vie de foi, c'est-à-dire l'amour et l'attente du royaume de Dieu. L'aide sociale de l'État est pourtant, elle a ses limites. Il faut y ajouter le soutien indispensable d'aide privée et personnelle, d'individus ou d'associations plus ou moins libres. Dans certains cas, ils ne reçoivent aucune assistance financière, aucune allocation de la part de l'État pour subsister. Ces cas limités nécessitent tout particulièrement notre vigilance. Nous devons rester attentifs à toutes les détresses et examiner attentivement chaque cas. Ce n'est que en chargeant nos épaules de la misère du monde et en y prêtant attention que nous reconnaîtrons toute sa gravité et que nous pourrons partiellement contribuer à la soulager. Ne soyez pas comme l'aubergiste de Noël qui, pris par ses nombreux clients, n'avait plus rien de disponible sinon une étable pour l'enfant Jésus. Aimez l'enfant de Marie en chaque petit être malheureux. Si vous ne l'aidez pas, eh bien il sera perdu, corps et âme. Chers amis, nous allons prier ensemble, mais avant, j'ai reçu dans le cœur de vous transmettre quelque chose pour votre propre édification et aussi pour vous encourager. Habituez-vous à la générosité du Seigneur de tous les instants. Mais en le faisant, invitez aussi ceux que vous aimez à la partager. En regardant à vous comme à un ami qui, humainement parlant, peut les aider, c'est de Jésus qu'ils s'approchent, et par vous qui vivez dans sa communion, c'est Jésus qu'ils finissent par aimer pour s'attacher à lui, eux aussi. Au lieu d'inviter les gens à recevoir Jésus-Christ d'une façon ou d'une autre, cherchez tout d'abord à découvrir leurs besoins du moment. Alors seulement, vous leur parlerez de Jésus comme de celui qui peut pleinement y pourvoir. Il arrive souvent qu'on n'éprouve en rien le besoin d'un sauveur. C'est bien plutôt un ami qu'on cherche. Alors, parlez de lui comme du grand ami. Ou bien, on ne désire nullement un guide, on veut simplement être compris. Dans ce cas-là, montrez en Jésus le Christ qui toujours comprend tous ceux qui s'adressent à lui. Quand il s'agit des besoins des uns et des autres, eh bien comptez, oui, vous pouvez compter sur Jésus-Christ pour les satisfaire comme il le fait pour vos propres besoins. Chers amis, maintenant, nous pouvons prier ensemble. Prions. Ô notre Père Céleste, que nos âmes se recueillent dans le sentiment de ta sainte présence au milieu de nous, qu'elles se tournent et s'élèvent vers toi avec un inébranlable espoir, qu'elles te bénissent pour tous les bienfaits, toutes les grâces dont nous nous sentons tellement indignes, qu'elles cherchent en toi uniquement leur force et leur assurance dans les afflictions, dans les troubles, les inquiétudes de cette vie. Seigneur, tes voix ne sont pas toujours nos voix, et tes pensées ne sont pas toujours nos pensées. Mais lors même que dans les circonstances de notre vie, nous ne pouvons comprendre la profondeur de tes jugements, nous ne devons pas oublier que tu es un Dieu de bonté, de compassion et de grâce. Nous désirons donc ardemment accepter d'avance toutes les dispositions à notre égard. Nous remettons entre tes mains nos vœux, nos projets, nos plus chères espérances, et nous voudrions pouvoir toujours te dire avec une entière sincérité que ta volonté soit faite et non pas la nôtre. Que cette volonté divine soit notre loi, qu'elle règle nos vies, l'emploi des jours et des instants que tu nous accordes. Que nous poursuivions nos courses vers le but de la carrière avec ardeur et avec persévérance. Que nous combattions le bon combat et que rien au monde ne puisse nous séparer de toi. Seigneur, nous te prions de bénir nos amis et nos parents, d'exaucer notre prière et d'avoir pitié de nos âmes. Au saint nom et pour l'amour de Jésus-Christ. Amen. Et chers amis, encore une fois, il est vrai que vous le savez très bien maintenant, que Dieu aime tous ceux qui ont eu assez d'humilité et de courage pour accepter la main tendue de Jésus-Christ qui est mort pour nous sauver et pour nous racheter. Eh bien, soyez bénis car il vous aime et je vous aime également et je vous embrasse tous avec tout mon amour agapé. Soyez bénis et à demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série. Au revoir, mes très chers amis.